Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Peut-être ne le savez-vous pas, mais depuis le printemps dernier, une initiative des plus originales a été mise en place suite à la crise des Gilets jaunes, une convention citoyenne sur le climat, une assemblée de 150 citoyens tirés au sort mais représentatifs de la société française. Une assemblée réunie pour décider du modèle de transition écologique de la France des demain. Une initiative forte qui répond à la demande de démocratie directe des Français. Après l'ère d'un patriarcat autoritaire, puis celle de la vague libertaire des années 60, le temps serait-il venu de l'autorité partagée? C'est en quelque sorte la question que pose un prochain colloque à l'Institut catholique de Toulouse. Le temps de l'autorité partagée, point d'interrogation, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau pour nous en parler. Marie-Christine Monnoyer, vous êtes économiste, secrétaire générale des Semaines Sociales de Toulouse et titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Et puis, pour des causes de grève ou autres contraintes, on va dire, d'agenda, nous rejoindrons plus tard Benjamin Pavageau, auteur d'un ouvrage intitulé Développer vraiment son leadership, paru aux éditions Vuibert, et qui a d'autres qualités que je citerai plus tard, et Arnaud Levan, qui est maître de conférence en sciences de gestion à l'Institut catholique de Toulouse. Marie-Christine Monnoyer, il y a donc un prochain colloque à l'Institut catholique de Toulouse, on va dire, de haute volonté, intitulé donc Collégialité et gouvernance, ou plus précisément Gouvernance, collégialité et innovation sociale dans les organisations à but social. C'est les 16 et 17 janvier prochains, on redonnera tous les détails. Ce colloque, si on essaye au début de cette émission, avant de rentrer dedans, de voir de quoi il va parler, de donner la parole aux uns et aux autres, de contextualiser, je citais cette Convention citoyenne sur le climat, on pourrait citer d'autres actualités. Le temps est-il venu, Marie-Christine Monnoyer, quand on voit cette convention citoyenne, d'une autre manière d'appréhender l'autorité? Quel est votre sentiment quand vous entendez parler de la convention citoyenne sur le climat?
Alors je pense qu'effectivement le temps est venu. Le temps est venu pour de très nombreuses raisons. D'abord parce que, comme vous le savez, la population française, comme la population dans une grande partie du monde, est de plus en plus formée. Est une population qui lit, qui écoute, qui s'informe. Et dans ces conditions, information plus formation conduit tout naturellement à une demande de participation aux décisions, à une demande de compréhension des décisions et donc à une gouvernance plus partagée.
Alors ça, c'est donc la Convention citoyenne sur le climat. Est-ce que d'autres exemples d'actualité vous viennent qui vous font dire que un peu partout dans la société française, dans toutes les, on va dire, les institutions que nous connaissons ou auxquelles nous pouvons participer de près ou de loin, cette tendance de fond d'une autorité partagée est en train de voir le jour? Qu'est-ce qui vous vient d'autre à l'esprit?
Alors, je pense qu'on peut prendre des exemples qui sont très différents les uns des autres. Étant donné le sujet du colloque et le lieu dans lequel je travaille, j'ai envie d'évoquer un grand nombre d'associations qui se posent la question de la gouvernance et de la gouvernance partagée parce que leur proximité au quotidien avec des personnes qui ont vécu des expériences de vie extrêmement différentes leur ont montré la richesse de ces personnes, la richesse de leur regard et souvent l'intérêt de la diversité des points de vue. Ça, c'est pour les organisations, en particulier les organisations à but social, et ce sont celles-là que nous avons très largement contacté dans le cadre de ce colloque.
Et on leur donnera la parole puisque Arnaud Levan parlera entre autres du Secours catholique un peu plus tard dans l'émission, qui est pionnière en la matière.
Voilà. Alors, il y a aussi des organisations qui sont plus productives ou plus industrielles ou plus commerciales qui ont développé cette tendance. On peut évoquer en particulier la situation de certaines start-up où, parce que des jeunes ou des un petit peu moins jeunes, mais souvent des jeunes, se sont lancés dans l'aventure de l'entreprise avec des copains, avec des amis, avec des partenaires, eh bien, il n'est pas possible de dire « c'est moi le chef et c'est moi qui décide de tout ». C'est une expérience qui va peut-être évoluer avec le temps parce que le goût du pouvoir peut modifier les choses, mais c'est aussi une expérience.
Vous évoquiez aussi la loi Pacte avant qu'on parle de cette...
Voilà, alors j'évoque aussi la loi Pacte qui a été votée donc au mois de mai 2019 et qui a pour... se traduit par le fait que désormais, les grandes entreprises vont avoir l'obligation d'intégrer au sein du conseil d'administration des salariés. Alors, pour la France, c'est une mini-révolution, pas pour tous les esprits, mais c'est une mini-révolution. Pour l'Allemagne, c'est complètement classique puisque ça existe, je ne sais plus même depuis quand, tellement c'est ancien. Donc, cette participation de ceux qui ne sont pas des actionnaires à la vie des entreprises, à la direction de l'entreprise via le conseil d'administration, elle est effectivement un élément de gouvernance partagée.
Alors, la chaire Jean Rodin, c'était donc le fondateur du Secours catholique. Vous invitez donc, entre autres, à l'occasion de ce colloque, vous donnez la parole donc à un certain nombre d'associations, d'organisations à but social, chrétiennes pour certaines. Est-ce qu'on pourrait pas, même si c'est pas d'abord le sujet, aussi élargir ça, puisqu'on est dans Vivante Église, à ce qui se vit dans l'Église? Le pape François ne cesse de plaider pour une Église plus synodale, plus décentralisé. On a pu lire récemment dans un article dans Le Monde, Jean-Miguel Garrigue, grand théologien dominicain, parler de la fin de la monarchie pontificale. N'est-ce pas le même mouvement qui se vit à l'intérieur de l'Église?
Alors on va dire que c'est le même mouvement qui est souhaité à l'intérieur de l'Église, qui dans certains cas et dans certains lieux, dans certains pays, dans certains diocèses, est très largement mise en place. Il y a encore de nombreuses réticences qui conduisent à faire que cela va plus ou moins vite.
Parmi les invités, donc maintenant on va se plonger un petit peu dans le programme, le pourquoi du comment davantage de ce futur colloque, pendant qu'Arnaud Levan arrive. Il y a donc la veille de ce colloque, si je ne me trompe pas, donc une conférence de Denis Clerc.
Le
soir du premier jour, pardon, le 16 janvier, une conférence de Denis Clerc qui est fondateur du journal Alternative Économique, peut-être très connu de certains, bref, un des grands titre de presse sur les questions économiques, qui vient parler d'une expérience singulière, qui est celle donc du journal Alternative Économique, je ne savais pas, qui est une SCOP. Alors je vais vous laisser expliquer ce qu'est une SCOP.
Société coopérative.
Voilà, et qui implique donc une autre manière de partager le pouvoir et les profits. Expliquez-nous ce qu'est une SCOP et pourquoi vous l'avez invité lui.
Alors, une SCOP, c'est un homme, une voix. C'est-à-dire que les décisions sont prises à la majorité, bien évidemment, mais aussi en donnant un pouvoir de parole et de décision à tous ceux qui travaillent dans l'entreprise. Et donc, dans un organe de presse, par exemple, il faut que tout le monde soit d'accord pour qu'on prenne telle ou telle orientation, qu'il s'agisse de la ligne éditoriale ou qu'il s'agisse des investissements, des décisions, du choix du lieu, etc.
C'est-à-dire que les décisions se prennent à l'unanimité?
Non, ou à la majorité. Mais tout le monde a une voix.
Femme de ménage, journaliste, absolument. Secrétaire de rédaction.
Tous les salariés.
Et le patron a la même voix que les autres.
Voilà. Alors, il a sans doute un pouvoir de conviction relativement fort que tout le monde ne possède pas, et une expérience aussi, mais il n'empêche que c'est un choix d'organisation. Et si nous avons proposé à Denis Clerc de venir, et que nous sommes très heureux qu'il ait accepté, c'est parce qu'il a été le fondateur de ce journal avec ce statut, qu'il l'a gardé jusqu'à la fin de son activité. Maintenant, il est à la retraite, mais Alternative Éco est toujours une SCOP. Et c'est le seul organe de presse qui soit dans ce cas-là.
Alors, comme angle plus précis donc, de votre colloque, vous posez dans le fond une question. Le développement d'une gouvernance collaborative dans une organisation à but social, donc une organisation à but social, ça peut être en l'occurrence donc, le Secours catholique et d'autres, on en a parlé. Est-ce que peut-elle donner naissance à des innovations sociales originales? On laisse entendre qu'on serait, je le dis de manière un peu abrupte, plus intelligent à plusieurs et on irait plus loin. Il y a d'ailleurs une expression à ce sujet, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Est-ce que vous pourriez nous tirer de votre chapeau une innovation sociale qui serait la preuve par l'exemple, avant de rentrer plus dans le détail?
Alors, Parmi les organisations qui viendront parler et qui vont donc participer à des tables rondes qui leur permettront d'expliquer leur propre organisation et leur propre gouvernance, il y a entre autres une qui est relativement connue, qui s'appelle le groupe Amitié et Fraternité, et qui a eu comme décision...
Donc qui est toulousain. Hein.
Qui est toulousain, oui. Tous ceux qui viennent, viendront avec des Toulousains, qu'ils soient nationaux ou locaux. Qui a décidé de pratiquer cette gouvernance partagée et qui a décidé qu'il y aurait dans chacun des éléments qui la constituent, dans chacune des structures qui seront mises en place au fil du temps, ce qui est le cas du GAF, ça fait plus de 20 ans, eh bien, on gardera toujours ce système. Quelle que soit la situation des personnes qui y participent.
Donc en l'occurrence, il faut dire que le GAF est un groupe qui accueille des personnes qui ont connu des situations d'exclusion ou qui en connaissent toujours, comme voilà. Des personnes sans domicile fixe ou autre.
C'est ça, ceux qu'on appelle les personnes de la rue. Et bien, ces personnes de la rue, elles ont des expériences, elles ont des idées, et ces idées, il faut qu'elles deviennent des projets.
Alors, à quelle innovation ça donne lieu? En quoi, d'écouter ce qu'on n'écouterait pas d'habitude, y compris pour prendre des décisions importantes,
ça donne ça donne des idées, en particulier en matière de logement. Ça donne des idées en matière de relations entre le logement et l'activité. Entre le logement et l'activité sportive et l'activité artistique. C'est-à-dire qu'on ne conçoit plus un logement, uniquement comme un lieu où on dort et où on mange, mais dans un lieu dans lequel on vit avec d'autres et dans un lieu qui peut être un lieu de réparation. Parce qu'en fait, très souvent, et chacun d'entre nous le sait, même quand on a une petite maladie, si on reste dans son coin à ne rien faire, eh bien on ne guérit pas ou on sent tellement mal sa souffrance. Tandis que dès qu'on participe un petit peu, eh bien on sent moins son mal et on commence à reprendre de l'assurance. Dans le cadre du Secours catholique, ce qui est à l'heure actuelle en émergence, et Arnaud va peut-être le préciser...
Et qui est assez prophétique, il faut
le dire. Et qui est assez prophétique, c'est le fait de se dire que ceux qui sont les aidés peuvent devenir des aidants. C'est difficile, c'est parfois incongru, et pourtant intellectuellement... C'est presque évident, mais dans le quotidien, c'est compliqué. C'est compliqué pour les aidants et c'est compliqué pour les aider. C'est comme si on change. Vous savez, dans une entreprise, quand quelqu'un va être conduit à avoir une responsabilité plus importante, on dit souvent que c'est presque impossible quand il vient du même service. Peut-on avoir été, entre guillemets, un subalterne et devenir le chef ? Est-ce que les autres membres de l'équipe vont l'accepter ? Eh bien, c'est un petit peu la même chose qui se passe pour les aidants et pour les aidés. Mais ça, quand on le vit dans une structure à but social, eh bien, on se rend compte que cette forme d'innovation, elle est une innovation sociale et elle peut devenir aussi une innovation dans l'entreprise.
On y reviendra parce que le Secours catholique, donc, et on est très heureux du coup, par le biais d'Arnaud Levan, de mettre un coup de focus dans cette émission sur le Secours catholique, et en l'occurrence pionnier, puisqu'il faut dire que c'est une décision, on va dire, à l'échelle nationale, que de faire à partir d'eux, avec, comme on peut l'entendre assez souvent. Alors Marie-Christine Monnoyer, avant qu'on fasse une première pause, donc ce colloque les 16 et 17 janvier prochains, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, on y reviendra, mais il y a surtout logique de fond, c'est que c'est un colloque un peu particulier, en ce sens que vous ne faites pas intervenir que des chercheurs, mais aussi donc des responsables d'associations et même des étudiants. Expliquez-nous pourquoi ce panel, j'allais dire citoyen, en tout cas varié.
Quelque part, j'ai envie de dire que c'est presque aussi une innovation sociale. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est que les personnes qui sont sur le terrain ont, et elles le savent bien, besoin d'avoir parfois de reculer, de prendre de la distance et de ne pas avoir le nez sur le guidon, comme on dit. De la même façon, les chercheurs, ils ont besoin de sortir de leur tour d'ivoire et d'aller regarder sur le terrain ce qui se passe. C'est une méthodologie tout à fait classique en matière de recherche, mais c'est une méthodologie qui est longue à mettre en place. Et donc, en faisant se rencontrer dans le cadre d'un colloque avec des choses qui sont très travaillée, bien entendu, en amont, aussi bien de la part des organisations à but social que de la part des chercheurs. Eh bien, on favorise cet échange de points de vue, ce regard croisé qui est innovant. Et si on fait venir aussi des étudiants, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est parce que les étudiants ont besoin d'apprendre et de regarder comment ce monde pratique et ce monde théorique sont capables de se mélanger, et puis parce que les étudiants, par définition, sont des personnes jeunes, et donc elles ont aussi un regard sur ce qui est en train d'être analysé et qu'elles peuvent l'apporter.
Vous dites, ça sera ma dernière question, avant qu'on fasse une première pause, dans votre futur propos, j'ai cru comprendre que vous citiez les ordres monastiques. Vous laissez entendre qu'il y a là une sagesse dans la manière de gouverner qui devrait nous inspirer davantage.
Alors, c'est vrai que, après avoir lu des documents qui dataient du XIIIe siècle dans l'organisation des ordres monastiques, on voit que dans un certain nombre d'entre eux, eh bien, cette gouvernance partagée existe. Je ne peux pas m'empêcher non plus de citer l'extraordinaire démocratie qui existe, par exemple, dans certains cas chez les dominicains, où vous devenez prieur pour 3 ans, vous êtes élu, vous êtes peut-être rééligible une fois, mais après vous redevenez un moine comme les autres, et donc la suite se poursuit, mais chacun a conserver la mémoire de ce qu'il a fait et donc sa capacité de regarder, d'apporter des idées. Pourquoi pas ?
Les 16 et 17 janvier prochains, gouvernance, collégialité, innovation dans les organisations à but social, c'est donc le thème de ce colloque, avec donc le 16 janvier, je le rappelle, une conférence de Denis Clerc, fondateur du journal Alternative Économique, la collégialité au sein d'une SCOP. Ça sera à 20h30, salle Tolosa à Toulouse. On fait une première pause musicale et puis on va retrouver nos autres invités pour, entre autres, parler du leadership. C'est un terme très à la mode, mais qui s'il est à la mode, c'est bien que la figure d'autorité ou la figure du leader est aujourd'hui une figure qui est interrogée.
Thank you.
Le temps de l'autorité partagée, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin en vue d'un prochain colloque qui aura lieu donc à l'Institut catholique de Toulouse les 16 et 17 janvier prochains, collégialité, gouvernance, innovation. Marie-Christine, autour du plateau, Marie-Christine Monnoyer, économiste et titulaire donc de la chaire Jean Rodin de l'Institut catholique de Toulouse, Benjamin Pavageau, pardon, donc docteur en gestion et auteur donc d'un ouvrage intitulé « Développer vraiment son leadership » paru aux éditions Vuibert. Je vous dis bonjour puisque vous n'étiez pas là au début. Bonjour Benjamin.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et Arnaud Levanne qui nous a rejoint, qui a bravé les grèves. Vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'Institut catholique de Toulouse. Pardon. Bonjour à vous aussi. Voilà, parlez bien près du micro. Alors Benjamin Pavageau, vous faites partie des intervenants dans ce colloque. Je vais laisser Marie-Christine Monnoyer peut-être introduire votre future présentation. Marie-Christine Monnoyer, donc il y a de multiples, on va dire, entrées dans ce colloque. Cultiver la gouvernance, vulnérabilité, intelligence collective, vers une gouvernance pour servir. La question du leadership, pour certains, on pourrait se dire c'est un peu la tarte à la crème aujourd'hui. Tout le monde veut parler du leadership. Pourquoi est-ce que c'est si important de travailler à essayer de définir ce qu'est un leader et de l'aider, comme l'a fait Benjamin Pavageau dans cet ouvrage, à comprendre ce qu'il doit devenir?
Alors peut-être que je dois préciser que Benjamin Pavageau est aussi un membre du GRAS, qui est un groupe de réflexion entre universitaires chrétiens, et que justement dans cette équipe, dans ce groupe, on se pose des questions avec les mots traditionnels de la gestion, mais avec le regard d'un chrétien. Et donc quand Benjamin a commencé à travailler sur le leadership, c'était pas tout à fait avec une optique d'homme de marketing ou d'homme de gouvernance classique, mais en se disant, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose d'extrêmement positif dans le leadership? Et quand on parle de gouvernance, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, on se pose cette question.
Alors Benjamin, on va creuser cette notion de leadership. Ce qu'on se disait donc au début de l'émission, et ça ne surprendra pas les auditeurs, c'est qu'aujourd'hui c'est une figure qui est, dont on attend beaucoup, comme probablement toujours des chefs, mais qui est peut-être en voie de redéfinition. Vous, dans votre ouvrage, vous parlez entre autres du colonel Beltram. Cela peut parler à beaucoup. Pourquoi citez-vous cet exemple et expliquez-nous en quoi, à vous lire, il serait une bonne figure de leader?
Oui, effectivement, c'est un grand personnage. Alors, il est inspirant, comme on dit aujourd'hui, peut-être par son aspect héroïque, mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est comment en est-il arrivé à pouvoir risquer sa vie et la donner jusqu'à ce point. Et en fait, quand on regarde toutes les personnes qui l'ont connu, qui l'ont fréquenté en tant que chef, leader, ce qu'on constate, c'est que c'est par des actes de don au quotidien, d'engagement personnel, de don auprès de ses collaborateurs, ses collègues, les personnes en difficulté autour de lui. Il était toujours attentif aux derniers de cordée. C'est finalement ce développement à partir du don de soi qui, progressivement, lui a donné cette capacité à se donner jusqu'au bout. Alors, on n'est pas tous amenés à aller jusqu'à donner notre vie pour une mission, mais je pense que c'est une figure emblématique, pas uniquement pour la fin de sa vie, mais aussi pour tout ce qu'il a construit.
Alors, vous avez cette expression, en tout cas, les personnes que vous avez pu interroger ou les propos que vous avez pu retrouver, notez entre autres, il ne vivait pas pour lui, il vivait pour les autres, même s'il laissait entendre que parfois il était un peu exténuant, mais que son exigence tirait tout le monde vers le haut. Comme préalable peut-être au développement ou après à la précision un peu du cœur de votre thèse, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de la figure du leader ? On peut lire un certain nombre de choses, on en entend beaucoup parler. Est-on, Benjamin Pavageau, en train de réfléchir dans le fond à une nouvelle figure de leader ? Je disais en introduction, on a en tête, peut-être coexistent dans la société française aujourd'hui des gens qui ont des conceptions de l'autorité très différentes, une vision de l'autorité très verticale, après une vision peut-être assez libertaire de l'autorité, et aujourd'hui on irait vers une autorité partagée, pas facile d'être leader aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors, je m'appuie sur la définition de l'autorité d'Anna Arendt, la grande philosophe juive, qui estimait que l'autorité s'opposait à la fois à la contrainte par la force et aussi à la persuasion par argument. Et aujourd'hui, on hésite, on balance entre ces deux extrêmes.
Est-ce que vous pouvez en préciser plutôt... la contrainte par la force et la persuasion par...
Argument, par argument, c'est-à-dire l'argumentation finalement démocratique. Et l'autorité s'opposerait, selon elle, à cette argumentation. Or, aujourd'hui, justement, dans une société à la fois individualiste et très égalitariste, on attend de la gouvernance une certaine forme d'égalité, d'argumentation. Et le leadership vient finalement se glisser entre ces deux extrêmes. D'un côté, l'autoritarisme et de l'autre, l'égalitarisme total. Et en fait, ce qu'on attend d'un leader, et ça c'est étymologique, hein, c'est quelqu'un qui va nous conduire vers un but commun. Et c'est un processus plus qu'un charisme personnel ou des qualités personnelles qui comptent évidemment. C'est une capacité à entraîner d'autres personnes vers un but commun. Et c'est un processus de transformation puisque en fait le leader lui-même, en avançant, en conduisant les autres, se transforme, se laisse transformer par les autres. Et les autres, en acceptant d'avancer sur ce même chemin, se laissent transformer aussi par ce chemin.
Alors, vous allez nous détailler ce que vous venez de nous dire. Peut-être ce qui me vient tout de suite, on peut lire aussi en creux cela dans les futures interventions de ce colloque. C'est qu'il peut y avoir aussi une manière charismatique de concevoir le leader qui n'est pas la bonne. Et les organisations à but social ne seraient pas exemptes des dérives des figures charismatiques qui prennent une autorité qui n'est pas ajustée. Expliquez-nous peut-être cela.
Oui, alors ça c'est, pour reprendre les mots du grand sociologue Max Weber, c'est effectivement face à l'autorité traditionnelle ou bureaucratique, il y aurait l'émergence d'un leadership charismatique qui a été souvent mal compris, c'est-à-dire on attend la personne éloquente qui va séduire tout le monde et finalement qui va captiver l'attention des autres et les priver de leur liberté, de leur autonomie, de leur responsabilité. Donc ça, c'est un grand risque dans lequel effectivement les organisations à but social ne sont pas exemptes parce que justement la cause, la fin peut justifier les moyens. Et elle est tellement louable et on peut tellement avoir envie de suivre celui qui incarne cette cause qu'on peut oublier que chacun a une responsabilité à jouer.
Est-ce que vous pouvez prendre Pardon, allez-y, finissez.
Oui. Oui, et je pense que c'est un petit peu c'est ce que j'essaie de développer à travers mes recherches et mes interventions à IRCOM ou en entreprise ou dans les ONG, c'est de montrer qu'en fait le leadership est un processus qui va permettre de favoriser un partage, un échange de dons dans le travail lui-même, où chacun va pouvoir donner ce qu'il a à donner à travers son travail, sa créativité, sa personnalité, et aussi accepter de recevoir des autres. Et donc, c'est un processus collectif qui va se construire autour du leader et du leadership, autour du but commun.
Alors, vous avez cité l'IRCOM, donc j'ai oublié de dire que vous êtes aussi titulaire de la chaire Accenture Leadership and Talent Development, donc de l'IRCOM, qui est grosso modo une école de communication. Est-ce que vous pourriez prendre un exemple, ces modèles de leader-donateur, comme vous le dites, est-ce que vous pouvez prendre un exemple pour après qu'on puisse rentrer dans le détail un peu de cette clé que vous proposez de compréhension d'un vrai et d'un juste leadership?
Oui, tout à fait. Alors, juste une précision, l'IRCOM propose plusieurs filières, hein, justement, notamment une filière de management de l'action sociale et solidaire, des filières de management et de sciences politiques.
D'accord.
Parenthèse. Donc, des figures, je vais prendre peut-être deux figures un peu paradoxal, une figure bien connue comme Nelson Mandela, qui en fait justement a exercé un leadership par le don de lui-même, c'est-à-dire qu'il a montré que la cause dans laquelle il croyait lui permettait de s'engager, de se donner et de prendre des risques. Et c'est finalement cette capacité à donner et non pas la coercition ou la violence qui a entraîné beaucoup d'autres à le suivre et qui a permis finalement de faire basculer toute une société. Et alors un autre exemple, peut-être moins connu, mais qui m'a beaucoup étonné, c'est chez Microsoft. Alors c'est le nouveau patron de Microsoft, hein, depuis 4-5 ans déjà, qui est un modeste Indien immigré aux États-Unis. Et petit à petit, à travers le handicap de son propre fils, il raconte dans son parcours de vie qu'il a découvert l'altruisme, le fait de servir les autres. Et c'est ce qui l'a motivé à changer la culture de Microsoft comme étant au service de ses clients pour qu'eux-mêmes puissent donner le meilleur. Voilà. Et c'est cette culture du don et de l'altruisme qu'il a personnellement transformé et qui l'a incité à transformer son organisation.
Alors Benjamin Pavajot, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu plus ce que vous entendez donc par cette place centrale du don? Parce que on a entendu donc que c'était comme une clé en fait d'un vrai leadership, que c'était un processus en fait de transformation personnelle du leader et par là même donc des équipes, comme si à donner l'exemple et à désigner un horizon, après tout le monde acceptait d'être un peu à même hauteur et se laisser transformer par l'aventure, je le dis très simplement. Mais on a envie de dire de tout temps, un leader c'est en partie donné. Alors quelle est la fine pointe de votre thèse, ou comment pourriez-vous l'expliciter davantage? Entre autres, je pense à tous nos auditeurs qui ont été en situation d'une manière ou d'une autre de leadership.
Oui. Alors la question, je vais la prendre par, je vais y répondre par la question du don. La question du don, c'est-à-dire transférer un bien ou un service sans assurance de contrepartie. Il y a une dimension d'incertitude et quelquefois de gratuité, d'ouverture. Et en fait, dans le monde du travail, dans le monde du management en particulier, cette dimension du don a été complètement évacuée au profit d'une rationalité, du calcul, de l'utilitarisme. Et donc, cette question du don est progressivement revenue sur le devant de la scène, et c'est une bonne nouvelle depuis quelques années, à la fois dans la recherche et la pratique du management. Et finalement, je me suis posé la question, mais ce qui paraît évident pour les figures comme Gandhi, comme Moïse, comme le Christ, comme Mère Teresa, c'est-à-dire exercer du leadership par le don, pourquoi ce serait absent du monde du travail ? Eh bien, tout simplement parce que le don a été évacué du monde du travail. On ne pense plus, on ne le voit plus. Et donc, j'ai essayé de réinterroger cette question du leadership à travers cette pratique du don qui existe dans le travail. On ne peut pas le nier. Il suffit d'interviewer n'importe quel manager ou collaborateur. Chacun est amené à donner plus ou moins, à recevoir dans le travail. Et justement, le leadership va avoir lieu lorsqu'on va réussir à faire coexister ces données, recevoir, transmettre autour d'un but commun et une mission commune.
Marie-Christine Monnoyer, vous qui êtes économiste, ça rappelle, on va dire, une incise ou un propos de Benoît XVI dans Deus Caritas Est, je crois, dans cette encyclique où le pape Benoît XVI, Dieu sait si ça avait fait jaser, laissait entendre que le cœur de l'économie, c'était le don.
Absolument, et tous ceux qui ont lu Deus Caritas Est ont été impressionnés par ce passage-là. Il a fait beaucoup réfléchir, et comme le dit très bien Benjamin il y a quelques minutes, nous avions l'impression que le don avait été exclu.
Que c'était pas, on va dire...
Ça n'avait rien à voir avec l'économie.
Ça n'avait rien à voir avec la vie d'entreprise ou l'économie.
Or, comme le disait encore Benjamin, c'est une évidence pourtant que le don est au cœur de l'économie, est au cœur des actes de beaucoup de personnes. On ne va pas dire tout le monde, mais un très grand nombre de personnes. Et ce qui a d'ailleurs été une des grandes difficultés de l'évolution de... par exemple, des options syndicales, c'est que le fait de faire disparaître le don, officiellement, conduisait à se poser la question, est-ce que, à partir du moment où il n'est plus reconnu comme étant le don, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus se donner ? Se donner à sa tâche, se donner à son client, se donner à son malade, se donner à ses étudiants ? Est-ce que cela n'a pas de sens ? Et cette prise de conscience-là, qui était que s'il n'y a pas de don, il n'y a pas non plus de bonheur à travailler. Si tout doit être rémunéré, non, même si la tâche doit être évidemment profondément rémunérée, le fait qu'on fasse aussi des choses par don donne du sens à la vie quotidienne, aux tâches quotidiennes. Et quand on écoute aujourd'hui un grand nombre de jeunes, que recherchent-ils dans leur activité ? du sens.
Voilà, ce sens est probablement aussi ce service mutuel. Benjamin Pavageau, avant qu'on fasse une deuxième pause musicale, vous avez une expression, vous parlez des soft skills. En français, tout simplement, ça veut dire peut-être les compétences secondaires ou celles qu'on ne verrait pas en premier. Ces compétences du vrai leader, ce serait aussi une capacité relationnelle, de connaissance de soi, d'expression de soi. Bref, une capacité à se connaître, à rentrer en relation, à créer aussi une relation de confiance. Pour introduire la troisième partie où on va parler après du secours catholique, les grands leaders ne sont-ils pas souvent ceux qui connaissent dans le fond leur misère ou qui ont connu de près la pauvreté, qui se sont liés d'amitié avec des personnes qui connaissent ou qui ont connu la grande pauvreté?
Oui, en fait, effectivement, ce qu'on constate, c'est que un leader qui a réussi à entraîner d'autres personnes, bien durable, hein, parce que la question c'est, est-ce que ça a un effet durable? Ce sont des personnes qui ont découvert leur vrai soi, c'est-à-dire leur vie intérieure avec ses ombres et ses lumières, et qui ont fait un travail sur eux pour ne pas projeter leurs ombres justement sur les autres. Et donc c'est un enjeu très important qu'on découvre de plus en plus, qui est donc cette capacité du leader à se connaître et à connaître autrui pour créer des relations durables et de confiance. Et donc il y a une dimension d'authenticité, de découverte de soi, découverte de l'autre. Et je pense qu'effectivement, à travers le don, lorsque l'on travaille et qu'on donne dans le travail, finalement le don ne peut mentir. C'est-à-dire on peut manipuler le don, mais au bout d'un moment, cela se voit, cela se sent. Et donc finalement, pour créer ces relations entre leaders et collaborateurs qui soient durables, eh bien le don permet de transférer cette authenticité du vrai soi, l'identité de celui qui donne et de celui qui reçoit.
Eh ben merci beaucoup Benjamin Pavageau. On va faire une deuxième pause. Je rappelle le titre de votre livre, Développer vraiment son leadership, paru aux éditions Vuibert. On fait une deuxième pause musicale et puis on va retrouver Arnaud Levanne pour nous parler du secours catholique, exemplaire en la matière en tout cas, qui se lance dans ce chemin de mettre les plus pauvres, on va dire presque, oui, à la première place, ou en tout cas participant dans les instances d'organisation et de décision. Thank you.
présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le temps de l'autorité partagée, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin en vue d'un prochain colloque à l'Institut catholique de Toulouse, donc sur les thèmes collégialité, gouvernance, innovation. Colloque évidemment auquel on pourra se rendre, mais question qui intéresse largement probablement les auditeurs, parce qu'on a oublié de le dire, mais le leadership, chacun l'exerce d'une manière ou d'une autre dans sa vie, d'abord sur soi-même, et parfois, même déjà, quand on est mère de famille, ou quelle que soit les responsabilités salariales que l'on a. Autour du plateau, Marie-Christine Monnoyer, qui est titulaire de la chaire Jean Rodin d'Institut catholique de Toulouse, était avec nous Benjamin Pavageau, auteur de Développer vraiment son leadership, paru aux éditions Vibert, et donc Arnaud Levan, maître de conférence en sciences de gestion à l'Institut catholique de Toulouse, je le rappelle, car il y a des auditeurs qui prennent toujours l'émission en cours de route. Lors de ce prochain colloque, Marie-Christine Monnoyer l'a dit au début de cette émission, il y a des chercheurs, des représentants d'organisations à but social, des étudiants. Vous, Arnaud Levan, vous allez parler comme jeune chercheur, mais vous allez donc évoquer le cas du Secours catholique. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui se passe de si singulier au sein du Secours catholique sur cette question de la gouvernance partagée, pour faire court?
Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, Secours catholique, dans son programme de 2016, en 2025, surtout... le délégation de Ariège et Garonne, dans son programme de 2018-2023, ont mis en place tout simplement dont la gouvernance partagée, dans l'objectif ici partage des savoirs des autres qui permettent à chacun prendre une part active dans la transformation de société
qui aide collectivement à grandir en humanité, puisque c'est l'intitulé exact. Alors si on le dit juste avec nos mots, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que les personnes en situation d'exclusion, donc les personnes sans domicile fixe, mais aussi les personnes accueillies plus largement au Secours catholique, en fait elles participent à toutes les réunions, il n'y a aucune réunion qui se fait sans eux, on réfléchit avec eux et à partir d'eux, c'est ça que ça veut dire?
Dans ce programme, pour construire ce programme, donc Secours catholique tout simplement, a intégré d'une part en égalité, donc un tiers, ce sont des personnes bénévoles, les personnes accueillies, un tiers sont des animateurs, mais aussi un tiers, ce sont des personnes qui font partie de comités de pilotage d'organisation.
Donc un tiers de bénévoles, un tiers de personnes accueillies et un tiers après, on va dire, les responsables bénévoles ou salariés, c'est ça?
Tout à fait. Tout simplement pour réfléchir et construire ensemble ce projet, c'est-à-dire... permet en fait tout simplement de prendre en compte les expériences, les vécus, leur vie au quotidien des gens qui vivent dans la précarité pour tenir compte hein, et pour mieux intégrer leurs attentes et leurs besoins dans le programme, dans la construction des projets de demain.
Alors, Cocorico pour le Secours catholique de Toulouse, hein, je sais qu'en l'occurrence, il sert d'exemple, il fait partie des lieux exemplaires qui sont cités au niveau national. On avait reçu à cette antenne Véronique Fayet, donc, qui est la présidente du Secours catholique, ou l'ancienne présidente, en tout cas, on avait reçu les instances nationales du Secours catholique qui nous a expliqué ce processus. Vous avez analysé, Arnaud Levan, donc quelques-unes des conditions qui font que cette gouvernance partagée... est possible. Alors déjà, vous avez donc évidemment, il faut avoir la volonté et être motivé pour cette coopération. Cela va sans dire. Vous faites une distinction pour commencer entre la réflexion collective et la communication collective. Alors pourquoi cette distinction?
Alors pour avoir une intelligence collective, il faut avoir une réflexion collective. Pourquoi la communication, on communique au quotidien. Dans toutes les organisations, il y a des communications. Mais pour avoir une intelligence collective, il faut transformer cette communication en une réflexion ensemble pour faire émerger l'intelligence de chacun et en même temps de tenir compte de la diversité et les différences, tout simplement, des individualités.
Donc vous laissez entendre qu'on peut avoir des bonnes intentions en matière de communication collective, mais que ce n'est pas la solution. La solution, c'est non seulement de communiquer, mais d'abord de réfléchir. Ça paraît juste être du bon sens quand même.
Hein, Tout à fait, oui.
Marie-Christine Mollet, est-ce que c'est juste une réaction sur ce sujet? On peut avoir l'impression d'enfoncer une porte ouverte, pourtant ça ne va pas forcément de soi.
Non, ça ne va pas du tout forcément de soi.
Pourquoi?
Alors, d'abord parce que... tout est plus lent quand on doit travailler tous ensemble. Or, quelle que soit la structure dans laquelle on travaille, on vit, on a l'impression qu'il faut aller vite, encore plus aujourd'hui qu'hier. Et donc, cette lenteur qui est une obligation dans l'écoute de personnes extrêmement différentes, eh bien, elle se traduit par une impatience. Et donc, on a envie de dire, ben voilà, on a réfléchi, etc. Et tout le monde va avoir le droit d'expliquer ce qu'on est en train de faire. Mais penser ensemble, c'est beaucoup plus difficile. Vous voyez, vous avez tout à l'heure demandé à Benjamin de dire les choses autrement. De les dire parfois de façon plus simple, parce qu'il avait des mots de chercheur. Mais dans toutes les organisations, c'est comme ça. C'est-à-dire, entre les mots du directeur, entre les mots du responsable et entre les mots du bénévole, ce ne sont pas les mêmes. Il faut déjà prendre le temps d'accepter de comprendre les différents mots. Que le bénévole se dise que le directeur dit les choses d'une certaine façon et que le directeur doit aussi écouter la façon dont les autres disent. Rien que ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça vous stresse, ça demande de l'énergie. Et après, on aborde ce qu'il y a derrière cela.
Arnaud Levin, vous vouliez réagir aussi, non?
Oui. Alors, donc, ce que Mme Monnoyer vient d'expliquer, qu'on a constaté les enquêtes, les entretiens qu'on a eus sur le terrain à travers les différents acteurs. Le rôle des administrateurs, le rôle des responsables du terrain, en fait, c'est de trouver les mots, les termes adaptés à la situation des personnes en précarité, les personnes qui vivent dans la rue, parfois n'ont pas des règles, n'ont pas des termes appropriés. Hein, par rapport à ce que les leaders, les responsables expliquent, dont le rôle des animateurs, c'est de trouver, adapter le discours aux personnes en situation de précarité.
Alors vous laissez entendre aussi, là-dedans il y a trois acteurs, hein, et on peut élargir ça donc à toutes les organisations à but social. Il y a l'institution, il y a les managers, et puis donc il y a ceux qu'on essaye de faire participer davantage. Pour dire les choses brièvement. Donc l'institution, il faut évidemment qu'elle soit engagée dans cette démarche, là, cela va de soi. Pour le manager, vous précisez une chose dont on n'a pas forcément énormément parlé. J'allais dire, c'est un peu la posture basse. Alors ça va sans dire, hein, au vu de ce qui a été partagé, un leader qui a une certaine humilité, mais vous laissez entendre au regard de votre étude que c'est pas toujours si simple. Quelque part, il faut comme donner des garanties aussi pour que tous les participants soient sûrs qu'il n'y a pas une forme de déséquilibre des pouvoirs. Alors expliquez-nous ça. Comment ça se vit au Secours catholique?
Alors, oui, dans les équipes, il y a des personnalités très différentes. Il y a des personnes accueillies, les bénévoles. Donc, parfois, il y a une confrontation entre les différentes personnes, dont le rôle ici de l'animateur, c'est-à-dire... comment améliorer cette communication?
Alors moi j'entendais plutôt qu'il y a une forme de suspicion à l'égard du manager, de la figure d'autorité, et qui en fait il est très difficile d'avoir un dialogue authentique avec des personnes qui peuvent être considérées comme subalternes ou en l'occurrence dépendantes, puisque ce sont des personnes accueillies, parce que le chef est toujours quelqu'un qui a un pouvoir qui représente aussi un danger. Comment est-ce qu'on essaie de donner des gages au sein du Secours catholique ? Alors, de toute façon, c'est tout simplement l'amitié qui se crée ou c'est...
Ce que vous avez dit, c'est dans, plutôt dans l'organisation classique d'une équipe. Lorsqu'on va intégrer dans une gouvernance partagée, c'est-à-dire il faut créer un lien de confiance. Donc cette confiance, à travers donc, ici, de comment donner les paroles aux personnes les plus démunies. Mais donc, si on va gouverner par l'expression du pouvoir, est-ce qu'on va favoriser, libérer les paroles des personnes en situation de difficulté? Oui, donc, ça, le rôle de animateurs ou de gouvernants sont ici, c'est-à-dire, doit être capable
de favoriser cette confiance. Arnaud Levan, est-ce que vous pouvez prendre un exemple pour finir du Secours catholique? Donc, vous citez la délégation Ariège-Haute-Garonne. Qu'est-ce qui se passe au final de si novateur qui fait que jusqu'à Paris, on en parle?
Alors, par exemple, aujourd'hui, dans les expériences des personnes qui vivent en situation de précarité, qu'on a constaté à travers nos observations que ces personnes, aujourd'hui, une fois qu'elles sont intégrées dans l'équipe, je cite quelques exemples, les mots qu'on a observés, par exemple... Une personne nous avait dit « Aujourd'hui, j'ose dire bonjour aux autres. Aujourd'hui, j'ose faire les démarches administratives. » D'autres nous avaient dit « Aujourd'hui, je reprends le contact avec mes enfants, avec ma famille. » Et dans une autre organisation, une autre équipe, on dit « Aujourd'hui, les personnes en situation précaire, en fait, font émerger leurs idées. » Créer de nouveaux projets beaucoup plus qu'auparavant.
Voilà, et ça n'est pas rien quand on sait ce que ça représente d'avoir passé quelques temps à la rue que de dire des choses comme cela. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église pour illustrer, donner un aperçu de ce prochain colloque. Pour finir, donc les informations pratiques, c'est donc le 16 et 17 janvier à l'Institut catholique de Toulouse. Ça sera à Saltolosa de 9h à 18h avec de multiples interventions. Je rappelle, le 16 janvier au soir, une conférence à 20h30 dans cette même salle de Denis Clerc, fondateur du journal Alternative Économique, la collégialité au sein d'une SCOP. Et Marie-Christine Monoyer me disait pendant la pause qu'il peut être bon de vous inscrire. Un site internet www.ict-toulouse.fr. Un grand merci à vous. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.